Bonjour, je suis Madame la maire principale au collège de Jastres. Je vais vous parler du dispositif vacances apprenantes qui se fait pour la première fois au collège cette année, notamment vacances apprenantes de printemps, où nous accueillons 24 élèves sur nos 55 élèves de 3e pour réviser, préparer leur brevet des collèges de la fin d'année.
Pendant les vacances de Pâques, un dispositif pour réviser, s'entraider et se donner confiance avec des ateliers dynamiques, des exercices ciblés et des moments conviviaux. L'objectif, c'était de consolider les acquis, se préparer sereinement, mais aussi redécouvrir le plaisir d'apprendre autrement.
Ce dispositif se déroule sur les 2 jours de permanence du collège où nous sommes ouverts. Nous accueillons ces élèves avec 3 professeurs volontaires qui leur font réviser les épreuves du brevet et qui les préparent également à leur oral de brevet qui se déroulera début juin. C'est le rectorat qui propose ce dispositif sur la demande des établissements. Donc je les ai sollicités, ils ont répondu favorablement à la proposition en nous donnant les moyens de rémunérer les enseignants volontaires. Je suis ensuite passée dans les classes de 3e pour leur expliquer ce que je leur proposais sur ces 2 jours de vacances apprenantes. Puis j'ai ouvert un sondage auprès des élèves et des familles, sondage auquel ils ont répondu favorablement pour 23 élèves. Voilà. Et les choses se sont mises en place après. Les élèves ont disposé d'un emploi du temps sur les 2 jours avec les différentes thématiques. Dans le sondage, les élèves pouvaient également choisir les domaines dans lesquels ils voulaient approfondir leurs connaissances, les disciplines du brevet à travailler ou les parties de leur oral de brevet qu'ils souhaitaient approfondir. Donc j'ai essayé dans leur emploi du temps de répondre aux demandes individuelles de chaque élève. Certains voulant uniquement préparer leur oral ou d'autres souhaitant balayer toutes les disciplines possibles du brevet. Donc on a essayé de répondre à toutes ces demandes individuelles.
Je suis Madame Gomez-Ortiz, professeure de SVT au Collège de Jastres. J'avais en tête des conseils que je voulais leur transmettre par rapport aux révisions générales du brevet, mais plutôt que de leur dire cette liste de conseils, j'ai préféré transformer ça en exercice, là aussi pour travailler l'oral, et j'ai proposé à des élèves qui ont été ensuite volontaires pour enregistrer un podcast. Les élèves ont ainsi pu s'entraîner d'une autre manière parce que le podcast nécessite de placer sa voix, d'avoir une bonne intonation. Et ainsi, les conseils, ils ont pu se les approprier et s'entraîner encore une fois à l'oral. Et puis voilà, pour certains, ça a été vraiment un petit défi qu'ils ont relevé et qui, je pense, les marquera. Et ils en sortent, je pense, avec beaucoup plus de confiance en eux. Donc vous pourrez écouter les 10 conseils pour réviser efficacement le brevet. Ils peuvent servir à tout le monde et ça peut accompagner les élèves dans cette préparation.
10 conseils pour réviser efficacement le DNB.
Conseil numéro 1. Tu n'as pas besoin de conseils.
Eh oui, spoiler alerte. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et même comment le faire. La vraie question serait plutôt, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait procrastiner?
La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche que l'on devrait faire maintenant. Souvent, on la remplace par une activité plus facile ou plus agréable. On ne te fait pas un dessin. Tu vois très bien de quoi il peut s'agir.
Le problème, ce n'est pas le manque de méthode, mais l'inaction. Réviser, c'est comme en sport. Regarder des vidéos de matchs, ça ne suffit pas. Regarder les autres courir après le ballon non plus. À un moment, tu dois aller sur le terrain et transpirer. Alors bien sûr, au début, c'est difficile.
Face à la montagne que cela représente, on peut avoir envie de lâcher l'affaire. Mais il ne faut pas abandonner. Tout nouvel apprentissage consiste à ne pas savoir faire. Puis un peu plus et encore un peu plus. Sinon, on saurait tout jouer de la guitare, faire un salto arrière ou écrire un roman. Même si c'est difficile au début, c'est en faisant que tu progresseras.
Tu tentes un truc en faisant de ton mieux. Puis tu compares avec la correction. Et tu ajustes. Des essais, des erreurs, des rectifications. Et au final, des progrès.
Ce n'est pas une histoire de talent, des capacités qu'on aurait ou pas. C'est une histoire d'action. Alors en route, tout est déjà là. Il n'y a plus qu'à se lancer.
Conseil numéro 2. Donne du sens à ce que tu fais. Tu te demandes peut-être à quoi ça sert d'avoir le brevet. À quoi ça sert de préparer la soutenance à l'oral si on peut tout trouver en ligne ou le faire par une IA.
Prendre le temps d'y réfléchir, seul, en famille ou avec d'autres élèves. Oui, le brevet, c'est important. C'est le premier diplôme que tu obtiendras. Mais ce qui compte surtout, c'est que tu auras appris sur le chemin en termes de connaissances et de compétences. Si quelqu'un ou quelque chose fait le travail à ta place, tu n'auras rien appris.
Mais si tu as essayé, analysé tes erreurs, fais de ton mieux, cherché à te remettre en question, etc., tu auras tout gagné. Et puis, ça te servira à plein d'autres moments de ta vie. Tu auras gravé en toi une compétence essentielle, savoir faire face à une épreuve et tout faire pour la surmonter.
Ça fait partie des compétences psychosociales. Ce sont des capacités qui permettent de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Elles servent à
gérer ses émotions, prendre des décisions, résoudre des problèmes.
Communiquer, s'adapter aux situations. Comme le dit Orelsan, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Conseil numéro 3. Travaille ton attention en classe. Beaucoup de choses se jouent en cours. Avant de réviser, il faut déjà avoir visé. Il est difficile d'être attentif et concentré pendant toute l'heure de cours, c'est vrai. Mais il est essentiel de l'être pleinement dans les moments clés comme par exemple les consignes, les explications, les conclusions, etc. Cette qualité d'écoute et d'attention se travaille, heureusement. Mais il faut déjà être conscient que notre cerveau n'est pas multitâche. Écouter et discuter en même temps, ça ne fonctionne pas vraiment. Entendre le prof, mais pour suivre sa nuit sur le bureau non plus. En cours, tu peux par exemple imaginer que tu es un ou une journaliste missionnée pour un reportage. Tu dois tout noter, tout comprendre pour pouvoir ensuite faire un résumé clair et complet. Pour tester tes capacités de concentration, tu peux voir si tu arrives à lire quelques minutes sans distraction, sans rien faire d'autre dans ta bulle. Passer 2 minutes à suivre des yeux la trotteuse sur le cadran d'une horloge. Si c'est inconfortable, voire quasiment une torture, c'est qu'il faut y remédier.
Conseil numéro 4. À la maison, réviser peut se révéler un plus grand défi encore, car les distractions ne manquent pas. Et notre cerveau adore aller vers le réconfort immédiat et la facilité. Et ton classeur d'SVT va difficilement rivaliser avec une série Netflix. Les formules de maths ne feront pas le poids face au scrollage sur les vidéos des réseaux sociaux. Il ne faut pas confondre le temps assis à ton bureau et le temps effectif de travail. Tu peux rester 2 heures assis, mais au final, avoir été un peu efficace si tu as révisé au son des notifications de ton téléphone. Encore une fois, les études ont prouvé que notre cerveau ne peut pas bien faire 2 choses à la fois. Tu peux, par exemple, utiliser la méthode Pomodoro. Cette méthode est une technique de gestion du temps et de concentration créée par Francesco Cirillo dans les années 1980. Elle vise à améliorer la productivité et à réduire la fatigue mentale. Tu vas alterner des périodes de travail concentré et des pauses régulières. Voici le principe de base. Premièrement, choisir une tâche à accomplir. Deuxièmement, régler un minuteur à 25 minutes. Puis, travailler sur la tâche jusqu'au son du minuteur, sans interruption. Ensuite, prendre une courte pause de 5 minutes. Pour finir, répéter le cycle. Après 4 pomodoro, prendre une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Essaye de t'organiser des séances de travail courtes, régulières, mais surtout en étant dedans à fond.
Conseil numéro 5. N'attends pas la motivation. Ne pas l'attendre, car désolé de te décevoir, elle ne viendra pas toute seule. Le mot motivation vient du latin mot vert qui signifie mettre en mouvement. Être motivé, ce n'est pas avoir envie au départ. C'est se mettre en action. La motivation n'est pas magique. Il n'y a pas de pilule miracle pour qu'elle débarque sans crier garde. Ce n'est pas « je suis motivé, donc je travaille », mais plutôt « je travaille, donc je suis motivé ». En gros, le premier pas est le plus difficile, mais après, ça roule.
Conseil numéro 6. Prends soin de ton hygiène de vie. Pose-toi honnêtement ces questions. Est-ce que je dors assez ? Est-ce que je mange bien ? Est-ce que je bouge physiquement ? Est-ce que je prends l'air pour profiter du soleil ? Combien de temps je passe chaque jour sur les écrans? Il est important d'aérer ton cerveau et de faire d'autres choses. Il faut apprendre à te détendre et ainsi à gérer ton stress et ta fatigue. Entre deux révisions, n'hésite pas à marcher, cuisiner, écrire, dessiner et méditer. Ton cerveau et ton corps en ont besoin.
Conseil numéro 7. Utiliser des méthodes actives et créatives. Réviser, c'est une contrainte. Certes, il y a une récompense au bout, puisqu'un effort, c'est un plaisir différé, mais autant rendre cela plus agréable. Tu peux jouer à transformer tes cours pour mieux te les approprier. Fabriquer des résumés sous forme de cartes mentales, sketch notes, de vidéos, de podcasts, c'est la meilleure manière d'apprendre presque sans faire exprès. Le terme sketch notes désigne une technique de prise de notes visuelles qui combine texte, dessin, pictogramme, flèche, cadre et typographie variées pour représenter des idées ou résumer un contenu. Plutôt que de simplement écrire des phrases, le sketch note permet de structurer l'information de manière graphique, ce qui facilite la mémorisation et rend les notes plus engageantes et créatives. Plus tu passes par différents canaux, voir, écrire, dire, plus ça s'ancre dans ta mémoire. Apprendre peut aussi être fun, mais pour cela, il faut créer ses propres solutions.
Conseil numéro 8, tu n'es pas seul. Les profs, la famille et les amis sont là pour t'aider, chacun à leur manière. Tu peux leur dire ce que tu ressens, tes blocages, tes doutes et tes craintes. C'est déjà un premier pas. Dire « j'ai pas compris », c'est pas très constructif, mais dire « j'ai pas compris comment on utilise cette formule de physique, montre-moi un exemple », c'est plus pertinent et donc efficace. Une bonne question amène une réponse précise et concrète.
Conseil numéro 9. Avance par petits défis pour booster ta confiance en toi. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle se construit petit pas par petit pas. Tu te lances un petit défi, un peu difficile, mais pas trop. Tu le réussis, tu es fier, tu cultives cette fierté. Tu te lances un autre petit défi, et ainsi de suite. Ne sous-estime jamais le pouvoir de « je pensais pas », mais finalement, j'y suis arrivé. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est croire qu'on est capable de réussir. Il faut le cultiver de son mieux. Plus je réussis, plus je me sens capable. Plus je réussis, etc.
Conseil numéro 10. Agis tout de suite. Tu as maintenant des pistes, mais rien ne changera. Si toi, tu ne passes pas à l'action, je crois que tu l'as compris. Je te propose de créer un dessin ou un texte qui résume ce que tu retiens de ce podcast. Tu vas te baser sur la métaphore du chemin entre aujourd'hui et le jour où on te remettra ton diplôme du DNB. À quoi ressemble-t-il ce parcours? Quels sont les obstacles, les aides? En conclusion, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de te mettre en mouvement, maintenant, tel que tu es, avec tes points forts et tes points faibles. La réussite, c'est les efforts multipliés par les stratégies efficaces d'apprentissage. Une multiplication, ça veut dire que si l'un est égal à zéro, ça annule tout. Alors, on espère que tu auras ton brevet, mais c'est à toi de jouer.
Comment as-tu décidé de venir à ce nouveau dispositif et pourquoi ?
J'ai voulu venir pour réussir le DNB blanc numéro 2.
J'ai pensé que cela pourrait être bénéfique pour pouvoir m'entraîner et me rassurer pour me dire que au moins j'ai fait quelque chose.
Et pour moi, chez moi, je n'allais pas avoir la même motivation qu'ici.
Qu'est-ce que tu as retenu ou appris ?
J'ai appris comment bien construire ma problématique pour l'oral.
Je me suis rendu compte que les professeurs ne sont pas là pour juger et qu'ils conseillent, qu'ils aident. Et du coup, j'ai appris que je n'avais pas à me sentir jugée pour poser une question.
Et j'ai retenu qu'il fallait quelqu'un avec moi, avec qui travailler, car ça m'aide. Et j'ai appris à m'améliorer aussi au niveau de l'oral.
Qu'est-ce que tu as préféré durant ces deux jours ?
La préparation à l'oral.
Le peu d'effectifs des élèves, moins de bruit et les professeurs sont plus à l'écoute et plus calmes.
Et j'ai préféré les moments où on était tous ensemble.
Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de la préparation au DNB ?
Ça a l'air plus facile.
On n'est pas seul, si on a des questions, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre.
Et je vais maintenant me préparer à l'avance plutôt qu'au dernier moment.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à parvenir pendant tes vacances?
Ça n'a rien changé.
Poser des questions au professeur.
D'avoir eu le courage d'avoir pris la décision de venir.
Comment envisages-tu maintenant cette épreuve?
J'ai plus confiance en moi, mais ça a l'air plus facile.
J'ai pas forcément d'avis.
Et de savoir que je peux être capable de plus travailler chez moi.
Après l'avoir vécu, que penses-tu de ce dispositif vacances apprenantes au collège de Jastre d'Aubenas?
C'est bien parce que ça aide les élèves à avoir mieux confiance en eux pour le brevet.
Je trouve ça très bien, j'approuve beaucoup, c'est pratique et rafraîchissant, ça change d'habitude.
Et je pense que c'est une bonne manière d'aider les élèves, de les motiver.
Alors après 2 jours de formation, de coaching au collège de Jastre avec ses vacances apprenantes, je suis avec 2 professeurs qui vont se présenter et qui vont nous faire une petite analyse de ce qui s'est passé et un petit bilan de ce dispositif.
Je suis Madame Gomez Ortiz, professeure de SVT au collège de Jastre. Et donc on a pu aider les élèves sur ces 2 jours pour notamment des révisions de sciences, en SVT précisément. On a travaillé sur des exercices de difficultés croissantes pour revoir un peu les bases et se préparer au brevet. Et puis après, on a aussi passé un moment sur la préparation de l'oral, c'est-à-dire, pour certains, il fallait un petit peu préciser les problématiques. On a avancé sur le plan et certains ont démarré le diaporama de présentation, ont pu faire des recherches, on a bien réexpliqué qu'est-ce que c'était qu'une source fiable. Et puis pour les plus avancés d'entre eux, ils ont pu également passer à l'oral avec les professeurs pour s'entraîner, pour gérer le stress que cela peut générer.
Bonjour, je suis Luc Aguerre, professeur d'éducation morale et civique et d'histoire-géographie au collège de Jastre. La première surprise, c'était d'abord le nombre d'élèves qui finalement était assez conséquent et la diversité des élèves. Autrement dit, on avait affaire à des élèves scolairement avec des parcours mais très très différents. Du coup, moi ce que j'en retiens, en dehors du fait que bien sûr j'ai pu les accompagner un petit peu dans les disciplines qui sont les miennes, c'est plutôt le fait qu'à chaque fois c'est peut-être quelque chose de très singulier, de très proche des besoins qui sont personnels à chacun, qui ressortait. Et c'était plutôt cette adaptation qu'on n'a pas réellement le temps de faire en classe, parce qu'on est pris par l'heure qui s'écoule, par le fait aussi qu'il y a une durée qui est limitée, mais aussi par le fait qu'il y a plus d'élèves, etc., et qu'on a affaire à des élèves qui ne sont pas forcément volontaires, donc les conditions ne sont pas les mêmes. Là, on a une plage horaire qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus large. On a aussi des moyens à notre disposition qui sont beaucoup plus facilités, en termes non seulement d'effectifs, mais aussi de dispositifs de matériel, etc. On a les ordi, on a tout ça en permanence, donc c'est beaucoup plus facile, puis avec une disposition des élèves qui n'est pas du tout la même. Donc pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on leur impose, c'est quelque chose qu'ils nous demandent. Autrement dit, par rapport à la révision d'un chapitre ou la révision d'une notion, etc., c'est eux qui posent la question, donc c'est beaucoup plus facile pour eux et c'est beaucoup plus transformateur comme rapport par rapport à l'acquisition du savoir. Et puis pour nous, ça nous met aussi dans un confort éducatif qui est très très appréciable. Voilà, donc ça a été une première chose. La deuxième chose aussi, c'est de voir en fonction de cette diversité des élèves, le fait qu'il en ressort un bilan qui est un petit peu différent en fonction des attentes des élèves. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des élèves qui, sur un plan cognitif, ont fait des progrès marquants, d'autres sur un plan organisationnel, d'autres en termes de rassurance de soi, d'autres ont pris le packaging mais tout entier. Mais j'ai vraiment l'impression que ce dispositif, qui est en quelque sorte un petit peu cousu main, était très très profitable à tous les élèves. Et c'est ce qui leur sortait. Outre le fait aussi que ça peut créer une autre approche, une autre manière de nous voir, et puis nous autres aussi, une autre manière de les voir, bien sûr. Donc, que ça ne peut faire mais qu'enrichir la relation éducative. Mais je pense que c'est une expérience qui peut les marquer, même dans leur rapport au savoir. Et ça me paraît aussi très intéressant, tout simplement.
Ces vacances apprenantes ont prouvé qu'un collège peut être un lieu d'échange et de soutien, même pendant les congés. À Jastre, la solidarité et la curiosité étaient au rendez-vous. Entre révision, défis collectifs et encouragement, les élèves repartent plus confiants, prêts à affronter le brevet avec le sourire et une vraie envie de réussir.